Le débat africain. Alain Foucault.
On ne parle plus que de cela. Les journaux, radios et télévisions lui consacrent désormais tous leur une. À 15 jours de la COP21, la conférence mondiale sur le climat qui réunira à Paris à partir du 30 novembre prochain plus de 117 chefs d'État et de gouvernement, l'urgence que représente le réchauffement climatique semble désormais faire l'unanimité. Avec, une fois n'est pas coutume, l'Afrique comme une des solutions à ce défi planétaire. Principale victime, c'est vrai, de ce dérèglement, elle n'émet pourtant que 4,55% des gaz à effet de serre dans le monde. Comment le continent noir en pleine croissance, confronté à la pauvreté, au chômage endémique des jeunes, au phénomène des migrations, mais surtout à la question de l'énergie, sous la pression de la communauté internationale, peut-elle réellement promouvoir son développement en tenant compte du réchauffement climatique? Comment adapter et financer cette exigence nouvelle? Que peut-elle concrètement attendre de ce sommet de Paris, de cette COP21? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré cette semaine à la conférence mondiale sur le climat de Paris. Avec plusieurs invités à la fois dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux, mais également au téléphone dans quelques capitales africaines. D'abord Monsieur Tosi Panupanu, négociateur senior de la RDC, la République démocratique du Congo, pour la Convention climat de l'ONU. Il est également membre du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat. Il est ici avec nous dans ce studio. Bonjour Monsieur Panupanu.
Bonjour Monsieur Foucault.
Second invité de ce plateau, Monsieur Honoré Tabouna, coordinateur du processus de mise en œuvre du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, expert en économie de l'environnement à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Il est en direct de Libreville au Gabon. Bonjour Monsieur Tabouna.
Bonjour Monsieur Alain Foucault.
En direct cette fois-ci de Douala au Cameroun, le docteur Bertrand Sandjon, qui est pharmacien, chercheur, biologiste, ethnobotaniste et qui encadre des étudiants à l'université de Douala. Il est également le patron d'un des principaux laboratoires qui travaille sur les plantes, puisque les plantes, c'est sa matière première. Bonjour, docteur Sandjon.
Bonjour, monsieur Foucault.
Notre quatrième invité est en direct d'Afrique du Sud, de Johannesburg, Nikes Moulombi. Il est le président de l'ONG Croissance Saine et Environnement. Il est également président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, le ROCEVAC. Il est aussi président du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon. Bonjour Monsieur Moulombi.
Bonjour Alain Foucault. Et précisez que nous avons lancé la position commune des organisations de la société civile pour l'économie verte et les organisations
voilà pour notre plateau. Rarement l'Afrique n'aura été autant malmenée par la nature. Catastrophes et dérèglements climatiques, sécheresses, inondations, érosion côtière. Mais dans le même temps, elle est de plus en plus montrée comme le futur pôle de croissance. Mais comment promouvoir ce développement en tenant compte de la protection de l'environnement? Déjà, quelle est l'urgence? La lutte pour la protection de la nature ou produire pour les populations, Monsieur Tosin Panupanu?
Je pense que les deux peuvent être faits. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Je crois que l'Afrique doit aujourd'hui tendre vers une réduction de sa pauvreté, une croissance inclusive.
Elle n'a pas le choix, de toute façon.
Absolument, et elle peut faire cela en se développant de manière moins carbonée. C'est-à-dire que l'Afrique, par exemple, est un paradis d'énergie renouvelable. On peut faire ce saut qualitatif vers des modes de production et de consommation qui soient plus sobres en carbone.
Oui, mais ça demande beaucoup d'investissements. On ne parle que de ça en ce moment, de l'énergie. Ça demande beaucoup d'investissements. Elle n'a pas les moyens de ces investissements.
Effectivement, c'est pour ça qu'au niveau international, nous nous battons pour que le futur accord de Paris puisse faire la part belle au financement climatique, afin que, ensemble, nous puissions trouver des solutions pour les générations futures.
Alors, Monsieur Moulombi, on a entendu beaucoup de déclarations de bonnes intentions. À chaque fois, on dit, oui, on va accompagner l'Afrique dans cette démarche verte. Avez-vous le sentiment aujourd'hui qu'on peut attendre cela de cette COP21?
D'abord, avant que l'Afrique n'attende le résultat de la COP21, elle doit parler d'une même voix, car l'échec à Paris serait l'échec collectif. Mmh. Et comme venait de dire mon collègue, c'est un paradis, d'accord, mais le financement doit s'inscrire dans une démarche durable qui doit nous obliger à intégrer les questions climatiques dans nos processus de planification. Plus que tout est urgent, ce que nous attendons de Paris, c'est de lancer, à l'exemple du plan Marshall, un plan Marshall de développement qui intègre l'ensemble des besoins africains. Parce que
avant d'arriver au financement, je veux savoir, c'est la question que je posais à l'instant à M. Panupanu, si la question de l'environnement, c'est l'urgence, aujourd'hui pour l'Afrique.
Oui, l'environnement, de toutes les façons, l'environnement est la question première. Elle est le temps plus, et c'est pour ça qu'elle devrait s'inscrire dans le programme de développement. Et il faudrait plutôt éviter qu'on fasse cantonner l'environnement sur des besoins urgents, mais plutôt sur des questions de planification. Et si elle est intégrée sur des questions de planification dans nos États, on verrait très bien que les changements climatiques deviendront une opportunité. Mais malheureusement, aujourd'hui, elles sont présentées comme un obstacle, mais c'est une opportunité pour le développement des pays africains. Mais en intégrant cette question dans les politiques publiques.
Docteur Sanjong, pour vous, c'est une priorité? Lorsque quelqu'un vous dit, j'ai envie qu'on produise comme ailleurs...
Non, je pense qu'il n'y a pas que le climat. Il faut qu'il y ait en même temps une économie verte. On ne peut pas parler du climat sans parler du co-développement, sans parler des populations. C'est bien, on parle du climat parce que ça touche aussi les pays européens. Moi, je pense qu'il faut associer les deux au niveau des politiques gouvernementales en Afrique. Certains pays ont commencé, comme je pense au Gabon, le Congo, la RDC, éventuellement au Cameroun, mais il faut absolument associer le climat et les hommes. Vous ne pouvez pas vous occuper du climat sans vous occuper de ceux qui habitent dans la flore, dans l'écosystème de ce climat.
Ce que vous essayez de faire comprendre, si j'ai bien compris, bien sûr, c'est que pour vous, on parle plus de climat, c'est pas ça la priorité, c'est aussi qu'il faut parler d'autre chose, qui est la protection de la nature, le co-développement.
Je pense qu'on en parle un peu trop. Mmh. C'est vrai que le climat impacte directement sur la flore, sur la faune, mais aussi, il faut parler des hommes. Comment pouvez-vous penser qu'on parle des pluies, qu'on parle de l'effet des serres, et on ne parle pas des gens qui y habitent? Je pense que les deux peuvent ne sont pas dichotomiques. Ça peut bien cohabiter. Il suffit seulement, surtout pour l'Afrique, de prendre des décisions fortes, de ne plus se laisser traîner, de ne pas être un spectateur à Paris ou comme à Copenhague, on a regardé les gens faire, ou à Lima. Il faut absolument que l'Afrique impose un ordre du jour et s'en tient à un cahier des charges. Les pays européens ne peuvent plus continuer comme ça. C'est eux qui ont pollué, ils nous parlent du climat. Il faut absolument qu'on prenne en charge. Quelqu'un a parlé du plan Marshall. Il a raison. Il faut qu'on fasse un plan Marshall associé au développement, au co-développement et le fonds vert. Et comme il vient d'Afrique centrale qui vient d'être mis sur place en ce moment par les chefs d'État, dont Honoré Sabounaké sur le plateau est l'initiateur, il faut que ça marche. Arrêtons de bavarder, arrêtons de parler de la politique. Il y aura 200 pays à Paris. Que vont s'établir? Et l'Afrique a fait ça. Nous sommes le moins pollueur du monde.
4,55%, alors que les États-Unis et la Chine représentent 42%.
Monsieur Foucault, il a fait aller flatter le président chinois. Le président Hollande allait lui faire la cour. Alors que c'est la Chine qui pollue, elle est les États-Unis. Vous vous rendez compte à quel point ils sont inconscients de nous entraîner des répercussions dans les forêts, dans le bassin du Congo. Mais il faut flatter, il faut lui dire, écoutez, tu viendras, tu viendras pas. Moi, je pense qu'il est là d'imposer, parce que c'est une affaire de tous.
Là, je me retourne vers Honoré Tabouna. Qui a le moyen d'imposer quoi que ce soit? L'Afrique, encore une fois, subit là-dessus. Elle n'a pas de moyen de pression.
Non, c'est pas un problème de pression. Hein. Moi, je crois qu'il faut revenir à ce qu'a dit notre ami Tony qui est sur le plateau, qu'il s'agit ici d'un problème commun à la société humaine. Nous sommes en train de passer à une étape très importante de la civilisation. C'est de ça qu'il est question ici. Mmh. Après le Moyen-Âge, c'était la révolution industrielle. Maintenant, nous passons à une autre phase de la révolution industrielle, qui est maintenant mettre en place une économie sobre en carbone. C'est ce qu'il vient de dire. Donc les deux vont aller ensemble.
Oui, mais quand vous dites ça dans un village d'Afrique centrale, les gens ils vous regardent un peu comme un extraterrestre. Vous parlez de la révolution industrielle, etc. Lui, il a besoin du bois de chauffe. Pour lui, c'est un langage qu'il ne comprend pas. Comment vous expliquez ça aux villageois? Vous leur dites que ça devient une urgence.
Mais justement, au niveau de l'Afrique centrale, nous parlons de plus en plus de l'économie verte. Mmh. C'est-à-dire qu'une économie qui prend en compte toutes nos activités, aussi bien sur le plan traditionnel que moderne, dans le but d'aller vers l'amélioration des conditions de vie de population, de développement économique, le développement des
entreprises. C'est-à-dire qu'il faut substituer quelque chose d'autre, apporter quelque chose d'autre à leur méthode de vie. C'est un peu ça, non, monsieur Tosi Panou?
Disons que aujourd'hui, la priorité des priorités pour les pays africains, c'est la réduction de la pauvreté. Mmh. Mais cette réduction de la pauvreté est rendue plus difficile à cause du changement climatique, qui donc rajoute un surcoût. Donc, on ne peut faire autrement que pouvoir gérer le changement climatique. Et donc c'est une question qui aujourd'hui sort de la sphère environnementale, entre dans la géopolitique, dans l'économique, dans le social et même le sécuritaire. Puisque le changement climatique est un multiplicateur de conflits. C'est pas moi qui l'invente, c'est la CIA qui le dit. Et donc aujourd'hui, le paysan dans une zone rurale africaine se rend compte qu'il y a un dérèglement dans le cycle de pluviométrie. Se rend compte qu'il y a un stress hydrique accru. Et il doit aller de plus en plus loin pour trouver cette eau. Il doit avoir accès à des instruments modernes tels que des alertes précoces qu'il peut avoir à travers son téléphone cellulaire. Donc aujourd'hui, il faut que la personne qui est la plus reculée
là,
en Afrique...
Là, c'est dans le meilleur des mondes possible, parce que quand vous voyez dans les contrées, le téléphone cellulaire pour regarder tout cela, et puis...
C'est possible.
Taux de scolarisation.
C'est possible. Aujourd'hui, ce sont des solutions qui existent, qui sont à la portée de tous, et il faut qu'on multiplie les moyens financiers donc pour pouvoir les réaliser. Mais juste pour dire qu'aujourd'hui, ce problème du climat est un problème insécable. Le climat ne s'arrête pas en Chine, il vient nous affecter, et c'est la première question internationale à solidarité obligatoire.
Oui, mais celui qui vit du bois, que lui expliquez-vous ? Expliquez-nous un peu cette notion d'économie verte, comment on explique ça aux villageois ?
Il faut déjà voir comment est-ce qu'il procède à la carbonisation de son bois. Il peut peut-être avoir accès à une technique de carbonisation qui utilise moins de bois. Donc la pression sur la forêt sera moins importante. Il peut également avoir accès à certaines solutions telles que des énergies renouvelables qui sont déployables au niveau local, de la micro-hydroélectricité, de l'énergie solaire.
Oui, tout ça pour lui, il n'y a pas accès, c'est-à-dire d'ici on peut en parler. Mais vous et moi allons dans ces villages-là, tout ça ils n'ont pas ça sur place.
Il faut justement qu'on puisse les désenclaver, il faut qu'on puisse leur emmener donc un accès à ce genre de ressources. Et il faut également du renforcement de capacités. Il faut par exemple leur expliquer que l'agriculture itinérante sur broulis est très néfaste.
Oui, mais est-ce que et là je me tourne vers le docteur Sandjon, est-ce que tout cela est entrepris dans les villages? Est-ce qu'il y a un travail pour informer les gens dans les contrées, ceux-là qui sont victimes, c'est vrai, du dérèglement climatique, mais qui vivent dans la précarité? Est-ce qu'il y a une démarche pour leur dire, voici comment vous allez travailler désormais pour éviter de détruire la nature et continuer de vivre?
Monsieur Foucault, quand j'écoute cette émission, j'ai l'impression d'être dans un cours de philosophie. Écoutez, moi j'ai été cette année au contact avec les populations. Nous avons travaillé dans la frontière Cameroun-Centrafrique, où nous avons travaillé avec 150 familles, près de 1500 personnes, dans 15 villages, pour ressourcer les plantes. Ça, c'est du concret. Il faut qu'on imagine un autre type de développement qui sera accompagné avec d'autres types de financement. On parlera de... Quand vous parlez de téléphone cellulaire, vous parlez de la culture sur du lit. Il faut en urgence que les États, au-delà de ce changement climatique, mettent en route des politiques de développement à proximité. Mais cela suppose qu'on identifie les acteurs de la filière de développement qui touchent directement ces populations, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'alimentation, dans la phytopharmacie, et que directement ça impacte. Et c'est pour cela que nous militons vers le Fonds économique vert, le FEVAC, qui est un instrument fondamental, qui est en route, et dont certains pays ont libéré leur part, comme le R de Congo, je crois, 1,5 million de dollars, le Congo, le Cameroun en place. Ça, c'est des outils concrets. Entre Paris, le COP21, et la mise en route, et le changement de l'eau qui va monter de 1 mètre, dans 10 ans, il y a eu des morts, M. Foucault. Il faut changer de politique de développement, aller vers le développement vert, l'éco-développement et l'économie verte. C'est très important et c'est urgent.
On a besoin de comprendre, en langage simple, en français facile, comme on dit sur cette antenne, M. Tabouna, c'est quoi l'économie verte, très concrètement?
Oui, concrètement, je l'ai déjà dit dans une des émissions sur vos antennes, le climat, c'est en quelque sorte le berger qui nous emmène vers le développement des activités traditionnelles qui sont au cœur des populations. C'est là où ils comprennent que ce que nous sommes en train de dire les touche. En Afrique centrale, par exemple, parmi les programmes sectoriels de l'économie verte, donc le modèle de développement qui fait le lien entre la protection de l'environnement et le développement économique, c'est, entre autres, les produits forestiers non ligneux. Donc c'est au cœur des activités des populations. l'éco-développement des activités agricoles traditionnelles. Donc ça touche les activités des populations. Quand on parle de l'artisanat, qui est un secteur économique qui ne produit pas de gaz à effet de serre, qui est au centre de ces activités.
Oui, mais est-ce qu'on promeut un développement avec ça? Vous parlez d'artisanat pendant que d'autres vont vers des industries. Les gens ont envie aussi d'aller à l'industrie, monsieur Panou. Est-ce que tout ce qu'on décrit là, c'est pas encore ramener des gens à des activités qui sont des activités vraiment à très petits revenus?
Disons, je crois que il faut reconnaître que l'Afrique est structurée de manière particulière. Elle est faiblement industrialisée. Et il y a certaines solutions, effectivement, qui seront des solutions qui sont relativement simples. Mais l'Afrique s'industrialise également, l'Afrique se développe, et il faut que l'accord de Paris soit porteur de solutions. Il faut donc, lorsque les pays africains, 54 pays qui parlent d'une voix commune
ce coup-ci, c'est pas souvent.
C'est une masse critique qui ne peut pas être ignorée, c'est quand même 25% des États parties de la Convention. Ces pays vont et disent très clairement, nous ne sommes pas responsables de ce problème climatique, nous voulons des solutions qui nous aident à nous adapter, à faire ce saut qualitatif. Et cette solution passe donc par un meilleur accès aux énergies renouvelables, par de meilleures pratiques agricoles, par des filières à valeur ajoutée au niveau forestier, ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut que cet accord parle à l'Africain lambda.
On va parler des attentes, mais là, très concrètement, l'économie verte, j'ai envie qu'on me définisse ça de façon claire pour celui qui est au village. Est-ce que ça veut dire qu'il retourne à l'artisanat, comme on a dit, à la culture, comme on la faisait il y a 50 ans, Nikes Moulombi?
Écoutez, merci, j'ai suivi les uns les autres, et je partage parfaitement la vision que développe le professeur Kanou au Cameroun. Je crois que c'est ça le problème.
Sanjon.
D'abord, j'insiste, il faut un plan Marshall à la résilience climatique du continent. Ça, c'est la question auquel les Africains doivent être présents, même si le président Hollande tente de faire la diplomatie climatique en oubliant la société civile africaine. D'autre part, il faudrait intégrer la question forestière. Elle doit être non pas seulement comme un sanctuaire de séquestration de carbone, mais plutôt d'abord comme un milieu de vie avec des exigences de développement, mais aussi le devoir dû aux engagements à la solidarité internationale. Parce que cette question climatique fait que l'Afrique a complètement, en valeur refuge, bloqué le développement à la faveur des pays du Nord. Même si la question de la solidarité nationale est visible, il est important que nous avons le négociateur aux Nations Unies qui est sur le plateau, il faut que la question d'accessibilité au financement soit levée, car l'urgence s'impose à tout le monde.
Je dois noter au passage que quelques-uns refusent ce terme solidarité internationale parce que ça ressemble encore à l'aide dont on parlait à une certaine époque. Il ne s'agit pas de solidarité.
De toutes les façons, où je me trouve actuellement en Afrique du Sud, où j'ai eu une séance de travail au NEPAD, l'aide au développement s'amenuise. Elle baisse. Donc les États doivent trouver aujourd'hui des mécanismes de mobilisation de ressources internes. Qui passent par quoi? Par le lancement des grands projets. Et c'est pour ça que je salue l'initiative gabonaise en partenariat public-privé, où la société civile a amené le partenaire privé à faire de la transparence dans le processus graine sur le plan agricole. Et donc nous avons besoin aujourd'hui que la question du financement soit complètement réglée, de telle sorte que nous puissions mettre en place ce plan de résilience, ce plan Marshall, parce que l'Europe s'est développée après la Seconde Guerre mondiale grâce à ce plan Marshall. Pourquoi l'Afrique ne réussit pas à se mettre sur ce niveau? Où je me trouve actuellement en Afrique du Sud, il y a des problèmes d'électricité, il y a la démographie, il y a Inga qui est là. Pourquoi on ne décide pas d'aller financer Inga et développer l'Afrique?
On va en parler, M. Moulombi, dans la seconde partie de ce magazine. On va parler des attentes réelles des Africains pour cette COP21. Mais avant, je souhaiterais quand même que l'on ait défini ce que c'est l'économie verte. On se retrouve pour la suite du débat africain dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Le débat africain. Alain Foucault.
Que peut-elle attendre d'un sommet où tous les grands pollueurs de la planète sont enfin réunis? Elle n'émet que 4,55% des gaz à effet de serre et pourtant elle est au cœur de cette conférence mondiale pour le climat. Que peut espérer l'Afrique de cette rencontre où on attend d'elle un modèle de développement plus propre, plus soucieux de l'environnement? En a-t-elle les moyens? Sinon, qui doit payer? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce débat africain consacré aux attentes de l'Afrique dans cette grande rencontre mondiale de l'environnement qu'est la COP21. Avec plusieurs invités. D'abord, M. Tosim Panou-Panou, négociateur senior de la RDC pour la Convention climat de l'ONU et membre du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat, qui est avec nous dans ce studio. Second invité de ce plateau, M. Honoré Tabouna, coordinateur du processus de mise en œuvre du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, expert en économie de l'environnement à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Il est en direct de Libreville au Gabon. Depuis Douala au Cameroun, le docteur Bertrand Sandjong, qui est pharmacien-chercheur, biologiste, ethnobotaniste et qui est en cadre des étudiants de l'Université du Cameroun. Et notre quatrième invité en direct d'Afrique du Sud, Nikes Moulombi, président de l'ONG Croissance Saine Environnement. Il est également président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, le RECEVAC. Nous avons fini la première partie de ce magazine en évoquant la question de l'économie verte. Très concrètement, avant qu'on ne passe à d'autres sujets, à d'autres thèmes, c'est quoi concrètement l'économie verte?
Écoutez, pour moi, c'est une économie qui tient compte de l'environnement, qui tient compte des ressources renouvelables et qu'il se fait de manière harmonieuse avec l'environnement.
Est-ce qu'elle est artisanale?
Oui, il y a une part d'artisanale.
Est-ce qu'elle est moins productive?
Pas du tout, parce qu'on peut, par exemple, pour produire, on a besoin d'énergie. On peut produire cette énergie de manière non carbonée. On peut la produire, bien sûr, de la manière la moins chère, c'est en utilisant du charbon ou d'autres carbones fossiles, mais on peut également utiliser de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne. Donc les deux ne sont pas mutuellement exclusifs.
Alors, ceux qui vous disent l'économie verte est faite pour garder l'Afrique dans l'état actuel, c'est-à-dire qu'elle ne se développe pas, qu'elle se nourrisse à peine,
Disons que, effectivement, parfois, elle est un peu plus onéreuse dans le court terme. Mais à moyen ou à long terme, on gagne. Parce qu'on se détourne de la facture énergétique. On peut avoir une contribution positive à sa balance des paiements. Puisque des devises importantes ne sont plus allouées à l'importation de ressources pétrolières, par exemple.
Docteur Sandjong?
Écoutez, l'économie verte, pour moi, c'est ça. Quand on parle de la notion du vert, c'est l'écosystème, c'est l'écologie. C'est une économie qui est basée, simplement, sur l'environnement, là où on se trouve, dans sur terre, dans les forêts, qui tient compte aussi des animaux. Alors, mais si vous basez une économie sur la flore, forcément ce sera sur les hommes. Et il y aura des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'énergie, comme a dit quelqu'un tout à l'heure. Donc c'est une économie qui est durable, parce qu'il y a un co-développement, c'est des personnes. De toute manière, aujourd'hui en Afrique, le gros des problèmes, c'est de développer l'arrière-pays. Développer le côté des personnes qui sont fragilisées.
Dans le rural.
L'économie verte vient, le monde de la, ce n'est pas les économies des industries de vêtements à Douala, ou de chocolat, ou de bonbons. C'est une économie qui se tourne vraisemblablement vers l'être humain. Il y a un co-développement. Ce n'est pas ridicule, réducteur, de dire que c'est une économie qui va, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à moyen terme. À court terme, ça semble être un terme péjoratif, mais à moyen terme, on voit très bien que cette économie, quand elle se développe, on a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans un pays. Moi, je pense que c'est une économie qui peut revenir. Il faut repenser l'économie africaine. Le mot de développement est très important. J'insiste là-dessus, et Nikes, tout à l'heure, le disait d'ailleurs, il faut imaginer autre chose. Nous prenons le Congo. Ils ont créé le FIPAC. L'année dernière, j'étais à Effondo, où il y a un forum international des peuples, des savoir-faire des peuples traditionnels d'Afrique centrale. C'est une bonne idée. Malheureusement, j'ai l'impression que ça ne suit pas. Mais c'est une bonne idée du président du Congo. Donc, de réunir les gens à Ifondo, à une heure d'avion de Brazzaville, pour créer ce que j'appelle une école, une université de savoir des peuples autochtones des forêts. Derrière ça, je crois qu'il y a un investissement de 3 milliards ou 5 milliards. C'est une très bonne idée. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le Congo n'avance pas. Nous prenons le cas du Gabon. Il y a une opération grande, quelque chose comme ça, qui est mise en route. C'est une bonne idée. C'est peut-être petit, mais ça va drainer les autres. Donc l'économie verte doit tourner autour de l'être humain. Le climat viendra un peu plus tard que manger, que se développer. Il faut cette économie verte. Il faut que l'économie des industries de ciment, des chocolateries, des bonbonneries, qui n'apportent rien, du téléphone à 3G. M. Foucault, un téléphone à 3G dans un petit village à Ifondo ou bien à Fonville, peut-être que ça apporte. Il faut Si c'est un G, c'est pas mal. Il faut
alors,
que
on a compris votre vision de l'économie verte. Maintenant, on est à 15 jours de la COP21. Que peut attendre l'Afrique de cette COP21 pour une fois où tout le monde parle d'une même voix, Honoré Tabouna?
Comme j'ai dit au début, la COP21, c'est le pédagogue. C'est l'opportunité qui permet justement aux Africains de développer, disons, l'économie, hein, qui est basée sur leur savoir-faire traditionnel, qui hier n'était pas au cœur de leur système de développement. Donc, il faut donc de l'argent pour financer. Mais ce n'est pas de l'argent pour quémander. C'est de l'argent pour compléter ce que les États ont commencé déjà à faire. Nous, par exemple, en Afrique centrale, nous avons mis, hein, les États donc, ont créé le fonds, justement pour financer l'économie verte. Ils ont commencé à mettre de l'argent. Donc nous partons à la COP pour confirmer que nous nous engageons dans cette économie verte et nous avons imaginé un outil financier pour financer donc notre économie verte. Donc nous attendons concrètement que les États qui seront donc à Paris, notamment les États industrialisés qui ont promis de l'argent, puissent donc regarder ce que l'Afrique a fait pour accompagner l'Afrique. Les collègues ont parlé du plan Marshall, mais nous avons déjà au niveau de l'Afrique, après 92, après donc Rio, pris l'engagement d'aller vers cette économie. Et à Rio plus 20, donc en 2012, nous avons donc confirmé cet engagement. Donc tous les États africains qui sont réunis donc au niveau de l'AMSEN, qui est la conférence des ministres africains de l'environnement, vous avez aujourd'hui la conférence des chefs d'État sur le climat. Donc nous partons dans cette direction. Et vous qui êtes à Paris, vous êtes en train de suivre que l'Afrique aujourd'hui parle d'une seule voix. Confirmer notre engagement dans cette nouvelle économie, ce nouveau modèle de développement en fait. C'est un nouveau modèle de développement et nous c'est très intéressant parce que nous n'avons pas été industrialisés. Donc à quelque chose malheureusement. Bon, donc nous attendons que Paris confirme l'engagement du monde entier dans son nouveau modèle de développement.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu une vue de l'esprit de penser que toutes ces grandes nations vont s'aligner sur ce principe-là? Lorsqu'on écoute le débat ces jours-ci, certains disent qu'on ne prendra pas une décision contraignante. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État John Kerry.
C'est une négociation et chacun a son point de vue. Je respecte son point de vue. Nous voulons un protocole, un accord.
Est-ce que vous croyez que l'Afrique sera entendue? Parce qu'on a promis des milliards, mais on ne les voit pas venir.
Le mode de décision au sein de cette convention, c'est le consensus. Donc personne ne peut venir et imposer son point de vue. 54 pays africains, donc c'est quand même 25% des parties à cette convention, et donc il faut qu'on écoute l'Afrique. Je voudrais dire pour
Est-ce que vous avez le sentiment que vous serez écouté? Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous travaillez sur cette COP21 depuis un certain moment, avez-vous le sentiment qu'on tend un peu plus l'oreille qu'avant?
Vous l'avez dit vous-même, Monsieur Foucault, nous représentons 4,5% des émissions globales. Donc notre posture est une posture morale, est une posture légitime. Nous n'avons pas contribué à créer ce problème. Donc je pense que pour moi,
mais les autres peuvent continuer de polluer. Hein
non, il faut que tout le monde réduise ses émissions. Et essentiellement les pays développés qui, depuis la révolution industrielle, se sont arrogés la majeure partie de l'espace atmosphérique. C'est une question d'équité. Il faut qu'il y ait un équilibre dans le partage de cette ressource atmosphérique qui est limitée d'ici la fin du siècle. Donc je voulais dire, nous voulons un accord ambitieux. C'est-à-dire que nous voulons que ce soit pas simplement un accord politique, mais qu'il y ait effectivement des actions importantes en termes de réduction des émissions. Nous voulons que ce soit un accord juste et équitable. Nous voulons que les pays qui ont créé ce problème puissent effectivement prendre des engagements qui soient ambitieux. Nous voulons que ce soit un accord qui soit équilibré, qui ne fasse pas seulement la part belle à l'atténuation, mais également à l'adaptation, puisque nous sommes les plus vulnérables par rapport aux effets néfastes du changement climatique. Nous voulons que ce soit un accord qui soit global et inclusif, d'où la nécessité d'avoir les États-Unis au sein de l'accord, 17% des émissions globales, la Chine, 25% des émissions globales, parce que si cet accord se fait sans ces grands émetteurs...
Avez-vous le sentiment que ça va se faire?
Ça va se faire. Nous voyons de bonnes dispositions. L'année dernière, par exemple, la Chine a envoyé un signal très fort en disant que elle allait plafonner ses émissions à l'horizon 2030. Les États-Unis ont dit qu'ils allaient réduire leurs émissions de 2005 de 26 à 28% d'ici 2025. Donc c'est des lignes rouges. C'est des avancées très 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 importantes. Et donc je disais, il faut que l'accord soit porteur de solutions et il faut que l'argent, le nerf de la guerre, soit également au rendez-vous.
Justement,
il ne s'agit pas pas d'aide publique au développement, il s'agit d'une dette publique dont les pays responsables de ce problème du changement climatique doivent s'acquitter.
Il faut mettre un accent dessus. Vous dites dette publique,
dette
pas
climatique.
Solidarité internationale, dette climatique.
Voilà.
Dette climatique. Et c'est encore une question de gros sous, Nikès Moulombi, vous qui avez toujours milité pour que les pollueurs payent.
Écoutez, M. Foucault, je suis heureux que mon compatriote de la sous-région qui négocie est sur le plateau à Paris. Mais je voudrais quand même dire au monde entier que la question climatique devient une question géostratégique, où le plus grand perdant est l'Afrique. Pourquoi ? Je donne un exemple. Le président Obama décide de réduire. Le lobby américain industriel se lève et dit au président Obama, nous n'allons pas dans ce sens. C'est pour vous dire que ce n'est pas pour demain. J'insiste, l'Afrique doit profiter de ses élites et de sa faiblesse de technologie pour aller plus loin. Il y a des exemples qui parlent aujourd'hui en Afrique. Le président de la BAD a révolutionné son pays en tant que ministre sur l'agriculture. Quelle stratégie les États africains se sont donnés en allant autour du président Hollande pour faire de l'agriculture le nouveau vivier? Je pense que l'économie verte est une économie réelle qui peut révolutionner l'Afrique. Parce que durant des années, on prend l'exemple en matière d'économie verte. Et je suis heureux que nous avons aujourd'hui un scientifique du Cameroun qui donne le meilleur exemple. La résine du Koumé, qui était utilisée en Afrique pour des danses traditionnelles, mais a profité à l'Europe pour la parfumerie et pour la science. Donc aujourd'hui, la résine de Koumé doit rentrer dans la comptabilité des États. Et c'est ça l'intérêt de l'économie verte. Quand je prends le Mwadi avec l'huile d'acajou, ça a profité aux Européens. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout ce qui était déchet hier devient aujourd'hui une valeur refuge et une valeur économique. Et donc, à ce niveau, nous insistons en faisant attention parce que qui a intérêt aujourd'hui que nous allons vers un accord, puisque ça devient maintenant un business, la négociation climatique. Et donc, même ceux qui négocient ne veulent même pas aller à un accord parce qu'ils n'auront plus de travail. Donc, les États doivent
carrément
prendre la responsabilité.
Pour vous, vous pensez que les négociateurs ont intérêt à ce que ça dure plus longtemps? Ça leur donne un peu plus
mais
de travail.
Bien sûr que oui, M. Foucault. Je vous dis que nous sommes sur des questions géostratégiques. Il y a bien des pays qui ont...
M. Panou n'est pas d'accord avec vous sur cette question-là, M.
Panou. M. Panou n'est pas d'accord, mais M. Panou sait que le point de vue de M. Panou à l'avant-veille ne comptera pas. Et au Congo démocratique, on vient d'enlever un haut cadre qui devait mettre en œuvre le projet CAFI dans la gestion des forêts africaines à quelques heures de la COP21.
Mais ça n'a rien à voir.
C'est le lobby qui commence à fonctionner.
Ça n'a rien à voir. Il y a une mémoire institutionnelle. Moi, je pense sincèrement que il faut se garder d'affirmer certaines choses sans qu'il y ait un fondement réel. Je pense que le président Obama aujourd'hui, effectivement, il y a le Congrès américain qui est aux mains des républicains, il y a d'énormes lobbies industriels, mais le président Obama peut agir par décret présidentiel, et il va le faire. Tout à l'heure, un collègue à vous a dit que le président Hollande n'écoutait pas les ONG africaines. Il y a eu 3 jours de réunion ministérielle en préparation à la conférence de Paris. La première matinée a été accordée à des échanges entre les ministres et des ONG. Et il y avait des ONG africaines. Donc je crois qu'il y a certaines affirmations que nous devrions nous garder de faire. Moi, je veux que 1 milliard 200 millions d'Africains puissent se retrouver au sein d'un accord qui puisse garantir leur sécurité, puisse garantir leur avenir. Je ne veux pas continuer à passer ma vie dans les avions, loin de ma famille. Donc il ne faut pas affirmer de telles choses.
Mais peut-être que vous ne pensez pas à vous. Vous ne pensiez pas à M. Panou, M. Moulombi.
Il m'a cité nommément.
Mais je pense aux négociateurs dans la globalité, c'est-à-dire les Européens et les Africains. Et je peux vous dire que ce qui se passe actuellement est regrettable. On ne peut pas faire venir les chefs d'État, faire venir les ministres africains et garder la petite information au niveau des négociateurs. On fait venir aussi, on rend l'information visible, on parle de la pré-COP. Et c'est pour ça que nous demandons que le président en exercice de la CEAC lance les réformes pour que nous ayons au moins une communauté régionale capable de relever le défi.
Bien, je me retourne vers M. Honoré Tabouna. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la voix de l'Afrique est entendue, que les exigences de l'Afrique sont entendues par ceux qui organisent cette COP21?
Absolument, absolument. Vous avez sur le plateau un représentant de la FIP qui est là, qui suit le dossier depuis plusieurs années. Et il pourra vous dire que la voie est formidable. Nous sommes en train de progresser. Il faut être pressé. Et si vous voyez, depuis la COP numéro 1 jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup progressé. Donc c'est dans cet élan que nous devons continuer. Et nous sommes persuadés que nous allons y arriver. Et sachez que l'année prochaine, nous serons en Afrique.
Mais lorsque vous regardez la lenteur avec laquelle les fonds sont débloqués et la difficulté à faire augmenter ces fonds pour changer la manière de travailler, pour changer la manière de produire en Afrique, avez-vous le sentiment qu'il y a une réelle volonté de la part des grandes puissances pour enfin rentrer dans cette grande politique de changement climatique?
Exactement, monsieur Alain Foucault. Vous regardez que dans tous les pays africains aujourd'hui, hein, dans les États ont pris l'initiative de créer leur fonds. Vous avez le Fonds africain pour les bioressources et les énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, vous avez le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Vous avez le Fonds méditerranéen. Donc nous n'attendons plus. Il n'est pas question aussi d'attendre, c'est un problème de notre développement. Donc nous devons d'abord commencer à y mettre. Et c'est ce que les États sont en train de faire.
Est-ce que les pays africains sont véritablement prêts pour gérer ces fonds? Est-ce que vous savez ce que vous allez en faire? Avant de revenir à vous, monsieur Panou, avez-vous le sentiment, docteur Sanjon, que tous ces fonds verts ont une réelle destination, ont été préparés à l'avance?
Je voudrais d'abord dire une chose. J'adhère à ce que Nikkei dit. On ne va pas aller au COP21 avec un chapelet à la main. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de morale. Tout ça, ça dénote un peu d'une facilité. Il faut arrêter, Michel Foucault. Ils ont pollué, il faut payer. On ne peut pas attendre le voleur qui vous vole et qui vous donne des leçons. Il faut absolument que ces gens qui polluent payent. Et il y a un fonds vert climat qui a été créé, qui dépend de l'ONU. Il faut transférer les fonds. Il y a le FEVAT, il y a des fonds qui se créent. On peut créer des banques vertes. Après le fonds d'Afrique centrale, il peut y avoir des agences sous-régionales, adossées aux politiques gouvernementales des pays africains. Il faut absolument qu'on mette la terre, les hommes au cœur du développement en Afrique. On ne va pas se développer avec des industries, je ne sais pas. Il faut manger, il faut développer l'agriculture, l'élevage et la santé, M. Foucault.
Ces fonds verts, M. Panou, est-ce qu'ils vont enfin servir et est-ce que les gens sont prêts à le gérer?
Oui, d'abord, il faut dire une chose. Moi, je ne joue pas la victime, je ne suis pas passif. Je pense que les pays africains ont fait montre de leadership au sein de cette négociation au cours des années qui viennent de s'écouler. Et je pense que les pays africains auront un rôle central lors de la conférence de Paris. D'ailleurs, les pays africains sont derrière beaucoup de propositions, telles qu'une proposition pour un objectif global pour l'adaptation, telle qu'une proposition pour un cadre de référence pour l'équité, telle que beaucoup de propositions sur les questions financières. Donc nous sommes vraiment à l'avant-garde de cette négociation.
Donc vous êtes
sur
optimiste.
Le climat. Je suis optimiste, mais ce que je voudrais dire, c'est que la partie offre du financement est réglée. Aujourd'hui, c'est le côté demande. Donc il faut absolument que les pays
expliquez mieux pour qu'on comprenne tous.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une équation. D'un côté, il y a l'offre. De l'autre côté, il y a la demande. Mmh. Aujourd'hui, avec le fonds vert qui a été capitalisé à hauteur de 10,2 milliards de dollars, une partie de cette offre est aujourd'hui concrète sur la table. Le fonds est logé au niveau de Songdo, en Corée du Sud, mais il n'y a pas d'endroit physique où ces fonds sont logés.
Tout à fait.
Nous allons dans un monde dématérialisé, et la Banque mondiale est l'agent fiduciaire, justement, de ce fonds vert. Mais aujourd'hui, donc, il faut qu'on travaille sur la partie demande, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur des projets, des programmes qui soient bien ficelés.
C'est là l'objet de ma question. Est-ce qu'il y a des programmes, il y a des choses bien concrètes qui vont être...
Absolument. Au niveau du fonds vert, les pays africains, par exemple, poussent pour l'accès direct. C'est-à-dire pour que des institutions africaines qui répondent à certains critères fiduciaires, à certaines normes de sauvegarde environnementale et sociale, puissent être accréditées au niveau du fonds vert pour permettre l'accès direct. De telle sorte que l'argent puisse directement venir vers les pays, au lieu de passer par la Banque mondiale, le programme des Nations Unies pour le développement.
Quand vous dites par les pays, ce sera l'État?
Non, des institutions publiques ou des institutions privées.
Ou des projets. Comme ceux, par exemple, de M. Sanjon qui est dans les plantes.
Oui,
éligible. Bien, je ne fais pas de la publicité pour lui. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce magazine. Je rappelle que nous aussi, le débat africain sera au Bourget pour le COP21 et que nous en reparlerons certainement. Merci d'avoir accepté de participer au débat africain. Éléonore Krenik, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Idée.